des livres plein les oreilles. Ravie, absolument ravie de vous retrouver une fois encore aujourd'hui, Clotilde Seille au micro de Canal M pour vous présenter l'émission « Des livres pleins les oreilles » avec aujourd'hui un retour. Vous vous souvenez, il y a quelques semaines, nous avions accueilli Jean-Claude Germain et Jean-Claude Germain qui nous arrivait avec le troisième tome de « Nous étions le Nouveau Monde », le feuilleton du ciel rouge et de l'enfer bleu. Jean-Claude Germain, cet être totalement fascinant, passionnant quand il s'exprime à tel point que j'avais encore à peu près 3 pages de questions à lui poser, et il a accepté de revenir, imaginez-vous, donc il sera là aujourd'hui. Également à l'émission aujourd'hui, on retrouve avec un grand bonheur Isabelle Falardeau, qui est une bénévole ici, lectrice depuis des années déjà, et que vous connaissez bien parce qu'elle a fait de la radio aussi à Canal M. Et puis Louise Boulanger sera des nôtres dans quelques secondes, mais pour amener Boulanger, une chanson, tiens, une fois n'est pas coutume, nous retournons dans le Berlin des années 40. Nous sommes en 1942 ou 43 et nous sommes sur la scène du cabaret.
Meine Damen und Herren, Mesdames et Messieurs, Ladies und Gentlemen, I give you that international sensation, Fräulein Sally Bowles.
You have to understand the way I am, mein Herr. A tiger is a tiger, not a lamb, mein Herr. You'll never turn the vinegar to jam, mein Herr. So I do what I do. When I'm through, then I'm through, and I'm through. Toodaloo. Bye, bye. Mein lieber Herr, farewell, mein lieber Herr. It was a fine affair, but now it's over. And though I used to care, I need the open air. You're better off without me, mein Herr. Don't dab your eye, mein Herr, or wonder why, mein Herr. I've always said that I was a rover. You mustn't knit your brow, you should have known by now. You've every cause to doubt me, mein Herr. The continent of Europe is so wide, mein Herr. Not only up and down, but side to side, mein Herr. I couldn't ever cross it if I'd tried, mein Herr. But I do what I can, inch by inch, step by step, mile by mile, man by man. Bye, bye, mein lieber Herr, farewell, mein lieber Herr. It was a fine affair, but now it's over. And though I used to care, I need the open air. You're better off without me, mein Herr. Don't dab your eye, mein Herr, or wonder why, mein Herr. I've always said that I was a rover. You mustn't knit your brow, you should have known by now. You'd every cause to doubt me, mein Herr. Bye-bye, mein Herr. Bye-bye, mein lieber Herr, farewell, mein lieber Herr. It was a fine affair, but now it's over. And though I used to care, I need the open air. You're better off without me, you're better off without me.
Auf Wiedersehen, es war sehr gut.
Bye.
Du kennst mich wohl.
Moi, je dirais pas bye bye, mein Herr, mais bonjour, madame. Bonjour, madame Louise Boulanger.
Bonjour.
Louise, je nous ai amené en musique à Berlin. C'était la musique, une des chansons extraits de la musique de la comédie musicale Le Cabaret. Cabaret qui se passe à Berlin. C'est pas par hasard si j'ai choisi ça. Et à une époque où le nazisme fait une entrée pas du tout triomphante d'ailleurs à ce moment-là. Et dans les milieux entre guillemets malsains, comme on pouvait penser que l'était le cabaret, du moins pour les nazis, c'est-à-dire lieu de débauche, lieu de femmes cravatées, d'hommes maquillés, bon, et tout le reste, eh bien, j'ai trouvé que ça nous
amène... C'est l'écurie catholique du Québec,
disons. Quelque chose du genre. Alors, j'ai pensé que ça nous amenait bien vers Les Rescapés de Berlin, de Jeanine Tessier, que vous nous présentez aujourd'hui, Louise Boulanger.
Oui, hier, je me suis replongée dans le livre, car ça faisait un certain temps que je l'avais lu. Je me suis posé une question, je me suis dit qu'est-ce que pourrait être le grand thème de ce livre-là au-delà de l'histoire comme telle qui est vraiment basée sur la vie d'une personne qui a vraiment existé mais qui a été romancée. Jeanine Tessier a rencontré cette dame-là, je ne peux pas vous dire exactement en quelle année, là, mais elle l'a rencontrée, la dame lui avait rencontré son histoire.
Okay.
Je me suis dit, je pense que le grand thème de ce livre-là, ça pourrait être la résilience. Comment quelqu'un qui est très haut dans la vie tombe très bas, mais réussit quand même à s'en sortir en allant chercher tout ce qu'il peut y avoir dans le fond d'elle-même.
Alors, parlez-nous de cette chute. D'où partent-ils et jusqu'où arrivent-ils?
C'est un livre qui est en deux tomes. Le premier tome se passe durant la Deuxième Guerre mondiale et le deuxième tome se passe en gros de la fin de la guerre, on pourrait dire environ les années 60 probablement. Là.
Okay.
Dans le premier tome, c'est pendant la guerre et dans le deuxième tome, on va voir aussi à travers la vie de ces gens-là, la reconstruction de l'Allemagne qui s'est pas faite quand même en deux jours. Là. Ce qui se produit, c'est au début de la guerre, c'est une famille très à l'aise, des barons, ils ont un manoir en banlieue de Berlin, ils ont des usines qui ont été transformées en usines de guerre. Le monsieur est un haut gradé de l'armée allemande, ils reçoivent chez eux... toute la haute classe dirigeante du nazisme.
Oui, parce que c'est plus qu'un ça. Hein. C'est carrément un colonel SS. Hein. Donc,
ouais, c'est
vraiment...
Mais on va voir qu'au cours, lui, peut-être on peut comprendre un peu, peut-être plus pour défendre l'Allemagne, qu'au cours, lui, à un moment donné, il commence à dire à sa femme, Hitler est rendu complètement crackpot, il écoute juste les gens qui disent ce qu'il veut entendre. Moi, je m'en vais parce que ça n'a plus d'allure. Il a dit, je vais régler quelques dossiers qui me restent à régler et je vais essayer de m'éclipser sans y laisser ma peau. Parce que ce monsieur-là a quand même 4 enfants. Là,
c'est ce que j'allais dire avec femme et enfant, hein, c'est ça.
Il y a 4 jeunes enfants, à peu près entre 5 et 12 ans. Mais ce qui va arriver, c'est que lui, en rentrant chez lui, il demeure en banlieue de Berlin. Il va être tué dans un bombardement allié avec son beau-frère. Sa femme, en plus de ça, se retrouve avec ses 4 enfants. Et dans les bombardements alliés, ben, leur maison va être complètement détruite. Tout ce qui leur reste, c'est le linge qu'ils ont sur le dos. Donc, la dame, son mari avait dit, s'il m'arrive quelque chose, il y a une lettre, il faut que tu ailles porter à mon frère à Stuttgart. Aujourd'hui, aller de Berlin, écoute, j'ai jamais été en Allemagne, là, mais je pense qu'aller de Berlin à Stuttgart,
c'est pas la porte à côté.
Très long, mais on est à une époque où l'Allemagne était à peu près complètement détruite. Il n'y a plus de train, il n'y a plus de chemin de fer, les routes sont à moitié détruites. Il y a des milliers de personnes sur les routes. Pendant 3 mois, elle va marcher avec ses enfants à travers l'Allemagne pour se rendre à Stuttgart. Et là, on va voir la vie du peuple allemand ordinaire qui, en fin de compte, qui a mangé ses bras dans ce guerre-là.
Ben, écoutez, c'est
sûr. Les villes ont été complètement détruites, des quartiers détruits. Des fois, les gens dans les campagnes s'en tirent un peu mieux parce qu'ils ont des animaux puis ils cultivent un jardin, sont capables au moins un peu manger. Mais là, la dame rendue à Stuttgart, son beau-frère, pas très heureux de l'avoir arrivé parce que dans le fond, lui, il n'a plus d'emploi. Lui aussi, il travaillait pour le gouvernement, donc il n'a plus d'emploi. Parce que là,
les
alliés
enfants,
sont en train de prendre le dessus.
Oui.
Lui a déjà...
Mais ce sont les Russes à ce moment-là qui ont...
Oui, c'est les Russes qui s'en viennent plus sur Berlin.
Ouais, qui bombardent.
Et puis là, lui, il n'a plus d'emploi. Puis il a déjà 4-5 enfants à faire vivre. Fait que quand la belle-sœur arrive avec ses 4 quatre enfants. Oups!
Eh oui, bien sûr.
Ils ont quasiment, là, elle leur dit, parce qu'elle, là, il faut qu'elle nourrisse ses quatre enfants. Elle va se retrouver à vivre pendant 5 ans dans la cave de ce monsieur-là, parce que quand même qu'elle voudrait aller louer un appartement, comme la ville a été à moitié détruite. Celle de Louis qui n'existe plus, là, même si tu voudrais. Elle va se trouver un emploi comme serveuse dans ce qu'on pourrait dire au Québec, un casse-croûte.
Ouais.
C'est un peu... Et là, son beau-frère est tout insulté. Voyons donc, tu vas faire honte à la famille. Ben, vois-tu, moi, j'ai 4 enfants, là.
Ben oui.
J'ai vécu sa route, là.
Ben
avoir mes enfants, avoir mourir quasiment de faim, là.
Non, c'est ça.
Plus jamais. Mes enfants, au moins, ils vont manger.
Ouais.
Ils vont dormir d'un lit. Fait qu'elle va se retrouver un emploi comme serveuse, elle qui est une dame qui vient de la haute société
allemande, oui.
C'était des barons et une baronne, là.
Mm-hmm.
Elle se ramasse, comme on dirait au Québec, ça irait quasiment travailler chez McDonald's,
ben oui.
Là.
C'était les von Steinert, hein?
Oui, c'était des petits restaurants de quartier.
Ah oui, OK, oui, le restaurant, oui, oui. Mais dites-moi, parce que j'imagine que ce sont des bouquins assez gros, assez fournis. Est-ce que c'est bien lu? Est-ce que c'est bien rendu?
Bon. C'est-à-dire que dans le deuxième tome, ben là, on va voir plus sa vie de la période qui va suivre, là, parce que par la suite, elle va réussir à se trouver. Des gens vont remarquer que c'est quand même une personne instruite. On va lui offrir des emplois. Elle va travailler pour les Alliés, au départ, les Britanniques et par la suite, les Américains. Et là, il y a des choses qu'elle va découvrir du nazisme qu'elle ne savait pas.
OK. Oui, oui, d'accord. Oh là là, mais bon, c'est un bouquin passionnant. Moi, je vais vous dire, ça me touche que vous nous en parliez. Honnêtement, j'ai beaucoup d'amis en Allemagne, énormément même, et je suis une enfant de l'après-guerre et j'ai eu la chance de tomber dans une famille française qui était pro-européenne pour justement réunifier assez rapidement l'Allemagne et la France en se disant les Allemands en ont mangé aussi toute une, ils en ont bavé. À commencer d'ailleurs par les soldats de l'armée allemande, pas les SS, les petits soldats là, qui arrivaient.
Oui, c'est ça, on en parle à un moment donné.
Mais oui, et vous savez que ce sont des mômes qui...
Les soldats allemands,
c'est incroyable.
Ces gens-là ont vécu dans des conditions...
Difficile. Alors, il faut s'en souvenir aussi. Alors, je trouve ça très, très bien que ce livre-là le permette, Louise.
On voit ce qui se passe en Syrie présentement, là, qu'on voit des images de maisons détruites, puis tout ça, là, ben, ça ressemble un peu à ça, là. Ça me fait penser que après la Deuxième Guerre mondiale, on s'était dit plus jamais, mais il semble que plus jamais, on l'a oublié.
On l'a oublié, exactement, Louise. Écoutez,
et
on va se laisser...
Au Québec, quand on lit des romans qui parlent de la Deuxième Guerre mondiale, comme on est des francophones, qu'il y a des Québécois qui ont été à la guerre des Canadiens, on pense au dernier roman, une des dernières séries de Louise Tremblay de Siam. On va vous lire des romans qui se passent en France ou qui parlent de la résistance française, du peuple français. Puis souvent, quand on voit des choses sur l'Allemagne, on va voir des reportages sur les stratégies allemandes, les hauts gradés, mais on voit rarement des choses qui nous parlent du vécu du peuple au ras des pâquerettes, des gens qui étaient des gens ordinaires comme nous. Là.
Vous avez tout à fait raison et je suis vraiment, vraiment contente pour cette raison-là. Et je peux vous dire que c'est un livre aussi que je vais mettre sur ma table de chevet, ça, parce que je trouve ça fort intéressant. Les Rescapés de Berlin, de Janine Tessier, T-E-2-S-I-E-R. Ça vous était présenté ce matin, ce midi, par Louise Boulanger. Merci beaucoup, Louise. Merci
Bonjour.
Pour ce choix de livre. Hein. C'est super. Oui. Alors, à une prochaine fois.
À la prochaine.
Au revoir. Alors, je vous l'avais promis, il nous l'avait promis, surtout la première fois qu'il est venu en fin d'année dernière. Il avait accepté de revenir pour que nous poursuivions cette conversation passionnante que nous avons sur ce livre. Nous étions le Nouveau Monde. Il est venu en fin d'année dernière nous présenter le tome 3, le feuilleton du ciel rouge et de l'enfer bleu. Bonjour, Monsieur Germain Jean-Claude.
Bonjour.
Ravi et merci encore une fois de vous être déplacé. Oui, on avait vraiment une conversation à finir. Et d'ailleurs, je propose aux personnes qui avaient raté la prise 1, si je peux dire, la première partie, de retourner sur notre site, hein, sur canalm.vusezvoix.com. Vous allez sous l'étiquette émission, vous cliquez sur « Des livres plein les oreilles » et vous pourrez réentendre à ce moment-là la première partie. On poursuit cette discussion Nous étions, lorsque nous nous sommes quittés, Jean-Claude Germain, nous parlions de ces grands bonhommes qui ont fait l'histoire un peu de cette guéguerre entre les bleus et les rouges. Bon, c'est très simplifié, mais...
Cette guerre qui a ruiné des vies et qui a ruiné des vies constamment.
On s'est quitté sur le duel d'Orion Doutre. Il y a Georges-Étienne Cartier qui est arrivé. Quel personnage encore, celui-ci. Un personnage, à un moment donné, attendez, ici. Alors, il avait écrit une chanson, Avant tout, Soyons Canadiens.
Ah oui, la question qui est merveilleuse. Moi, ce que je trouve qui est fascinant, c'est que tout à coup, on a des choses qui ne marchent pas. C'est-à-dire, c'est que là, sur sa statue qui est ici, là, près, je veux dire, au pied du Mont-Royal, c'est Avant tout, soyons Canadiens.
Oui.
Mais ça, c'était une chanson révolutionnaire pour défendre la cause des patriotes. Et là, on le met en dessous pour pouvoir exprimer le fait qu'il était un des pères de la Confédération.
Quand je vous ai dit, lorsque nous nous sommes vus la première fois, qu'il y avait des fois où j'étais un petit peu perdue, je dois dire que lui, il m'a un peu mélangé, Monsieur Cartier, Georges Étienne, qui était chef du Parti conservateur, canadien, et qui se définissait, ça c'est vous qui écrivez ça, comme un Anglais qui parle français.
Oui, il était rendu là. Mais la question qu'il y a, c'est qu'effectivement, lors des batailles, justement, au niveau des Rouges et lui, puis on lui a reproché d'avoir été un pleutre, d'avoir un fuyard à Saint-Charles. Mais on oublie de dire qu'il avait été également un héros à Saint-Denis.
C'est...
Alors là, puis lui, il s'est retrouvé aux États-Unis parce qu'il avait trouvé un moyen de se cacher ici, dans l'arrière-pays. Oui. La question qu'il y a, c'est comme il lutinait la fille du cultivateur, il fallait qu'il se sauve aux États-Unis. Alors, mais en même temps aussi, au niveau politique, c'est-à-dire c'est un homme entier, je veux dire, très important, mais en même temps, tant qu'il sent que le vent change, alors puis il y a une chose, il y a un moment donné tragique que je vois là, par rapport à lui, c'est que Delormier, que c'était un de ses grands amis, juste avant de mourir, il a écrit une des premières lettres qu'il a écrites. Il en a écrites en disant « J'espère que ça va bien pour toi » et tout ça. Puis ce qu'il ne savait pas, c'est que lui avait déjà changé de sa casaque, de casaque à ce moment-là.
Exactement.
Alors, mais le personnage demeure fascinant parce qu'il est central par rapport à ce que c'est.
Ah ben oui, moi c'est pour ça d'ailleurs que je me suis dit, il faut à tout prix qu'on en parle quoi, de ce Georges-Étienne Cartier qui, à un moment donné d'ailleurs, avait enlevé le S du
Il a enlevé son Georges, la question. Mais en fait, le moment le plus fantastique, c'est quand on parle de corruption. Là, le problème qu'ils ont, voyez-vous...
Mais oui, j'y allais.
Le problème qu'ils ont fondamentalement lorsqu'on fait le 150e de la Confédération...
Oui.
C'est extrêmement difficile de trouver dans ce document-là un moment où il y a un éclair quelconque parce que c'est un genre de contrat raboudiné d'avocat. Mais en même temps, le personnage le plus important de la Confédération, c'est le chemin de fer. C'est le chemin de fer et les intérêts du chemin de fer. Et à ce moment-là, Cartier est assez extraordinaire.
Oui.
Dès le départ, le Canada uni, là, pour ceux qui ne comprennent pas ça, là, il y a un moment donné, il y a le Canada uni où on est en même temps avec l'Ontario, le Haut-Canada. Et à ce moment-là, lui, il s'est fait nommer immédiatement sur le comité des chemins de fer. Un poste qu'il a gardé jusqu'à la fin de sa vie. Extrêmement utile, puisqu'à ce moment-là... Et en même temps aussi, il ne faut pas oublier qu'il était un représentant officiel des intérêts du Grand Tronc, qui est le chemin de fer important.
Oui.
Et ensuite, son cabinet d'avocats s'occupe de tous les contrats du Grand Tronc. Alors, ce que le Grand Tronc dit, il ne demande pas une subvention, mais il demande une garantie de prêt au gouvernement.
Oui.
Bon, il demande à ce moment-là aux députés, je veux dire, à ce moment-là, à Ottawa, là, aux députés Georges-Étienne Cartier, de soumettre une demande de garantie de prêt,
qui
s'en va à ce moment-là au président de la commission des chemins de fer.
Oui.
C'est lui.
Ouais. Ben oui, exactement. Alors donc, non mais écoutez, c'est quand même pas d'hier, hein. C'est pas.
Non.
C'est fou. Non,
en même temps, mais à ce moment-là, vous avez aussi l'ensemble. Ouais. Je veux dire, avec même le chemin de fer est important. Puis celui qui a lancé la Confédération, c'est un monsieur qui voulait qu'il y ait un chemin de fer britannique jusqu'au Pacifique.
Et on en parlait aussi la dernière fois, un petit extrait, tiens, pour amener ce que je vais vous dire, page 146. Le contrat de la Confédération, écrivez-vous, qui s'annonce, sera à l'image de deux avocats de la même trempe. La motivation profonde de MacDonald est de protéger le Canada des États-Unis et celle de Cartier de protéger le Québec du Canada. Somme toute, c'est un contrat d'avocat établi par des avocats dans la langue des avocats,
oui,
pour des avocats.
Non, tout à fait. Et je veux dire, tous nos conflits, même actuellement,
on dit qu'il faut
régler ça avec la Cour suprême qui avançait être le conseil privé en Angleterre.
Oui.
Alors,
oui,
donc, le problème qu'il y a, c'est qu'ils ne peuvent pas transformer le Canada avec une déclaration d'indépendance comme les États-Unis ou des choses de ce genre-là, parce que ce n'est pas du tout dans la tradition britannique.
Non, non, c'est ça.
Les Britanniques, c'est des contrats d'avocats depuis le début. Là.
Mais oui, mais
il
n'y
a,
oui,
pas de moment. Alors, mais le personnage, quand même, est intéressant. Puisque moi, je, oui, trouve qu'il sauve, parce qu'éventuellement, il avait vécu sur le Canada uni, oui, là, parce que le gouvernement, il devait avoir deux majorités, puis tout ça, oui, c'était très, oui, compliqué. Ça ne marchait pas du tout, parce,
non,
que les intérêts,
ça,
étaient différents. Mais finalement, pour lui, tout à coup, il veut absolument... Vous savez, tant que quelqu'un fait est corrompu comme ça, c'est intéressant, parce qu'il, oui, sait au moins de quoi il parle. Fait qu'à ce moment-là, je veux dire, il sait que pour le Québec, le seul moyen, il fallait que ce soit une fédération. De façon à ce qu'on puisse avoir un Parlement où on demeure majoritaire et on peut prendre nos décisions. Mais éventuellement, lorsqu'ils vont aller à Londres, là, MacDonald, lui, il veut une union législative, c'est-à-dire c'est que ce soit Ottawa qui décide.
C'est ça.
Mais vous voulez comprendre une chose, disons, ça veut dire Ottawa décide à un moment donné qu'ils vont légaliser le pot. Puis à ce moment-là, il a envoyé ça aux provinces en disant « débrouillez-vous avec ». Non, dans une confédération
ça se passe pas comme ça.
Il y a au moins, ils avaient un partenaire. Alors, dès le point de départ, MacDonald, là-bas, voulait avoir ça. Je veux dire, il n'était même pas sûr jusqu'à la fin s'il n'allait pas demander ça. Finalement, on a eu une confédération, mais pas avec des pouvoirs comme les États des États-Unis.
Non, c'est ça.
Et à ce moment-là, ben, quand même, on a sauvé ça. En même temps, aussi, Cartier, à cause du chemin de fer, a décidé que tous les travaux de chemin de fer, tous les travaux, disons, d'usinage, puis tout ça,
oui,
ça se fait,
oui,
à Montréal.
Oui.
En fait, les gens disaient que ça devait être dans l'Ouest, il n'y a pas tout à fait tort, parce que le chemin de fer, il était là.
Alors,
il l'a obtenu pour Montréal. Alors, donc, voyez-vous,
des
fois, c'est... J'ai pas un jugement, moi.
Non, je comprends.
Absolument fermé, en ce sens qu'à travers toutes ces malversations-là, quelquefois...
La corruption a du bon.
a du bon.
C'est ce que vous êtes en train de nous dire. Vous avez dans le livre des moments anecdotiques, puis je voudrais m'arrêter, entre autres, sur celui-ci, parce que c'est ce qui rend votre livre délicieux. Je vous rappelle qu'on parle du tome 3 de « Nous étions le nouveau monde » de Jean-Claude Germain. C'est le menu composé en l'honneur des délégués pour le premier souper confédératif. Écoutez, je ne prendrai pas une heure parce que ça va prendre beaucoup de temps, mais enfin quand même, on commence avec une soupe à la tortue verte, sanglier, pâté de perdreau, galantine à la dinde, aspic d'huître à la maréchale, mais ça c'est des petites entrées ça, hein. Filet de veau en aspic, langue de bœuf. Et puis, quelques petits pâtés de foie, de volaille aux truffes. Et puis, un petit peu de sérieux, maintenant, les rôtis, bœuf, quartier d'agneau, perdreau, bécasse, dinde, etc. Sans compter, enfin, non, mais c'est un
phénomène. Il faut savoir une chose aussi qu'ils mangeaient à 11 heures le soir.
Oui,
oui,
puis à un moment donné, ils arrêtaient pour danser. Hein?
Non, ils dansaient après.
Ils dansaient après, c'est ça.
Ils finissaient ça à petites heures
et
du matin.
Et voilà, ils recommençaient aux petites heures du matin. Mais ça vient de là, alors chez nous aussi, en France, là, les grandes cérémonies, quand on passait à table à 11h du matin.
C'était sans fin.
En
même temps, il faut savoir aussi que tous les délégués avaient eu le transport payé par le Grand Tronc pour leur famille et la possibilité de continuer plus loin pour aller visiter parce que c'est qu'était le Canada à ce moment-là.
Jean-Claude Germain, il nous ne reste déjà plus que 4 minutes. Je vous dis, vous allez revenir une troisième fois. Non, mais il y a des éléments importants. Moi, il y a un truc qui m'a vraiment fasciné, c'est l'importance des incendies.
Oui.
Il y en a en pagaille.
Ah oui, mais
à chaque fois...
La ville a brûlé 2-3 fois.
Oui, oui, mais à chaque fois, ça amène d'autres événements historiques qui ne seraient peut-être pas arrivés.
Ah, mais ça dépend des feux. S'il n'y a pas si vous parlez
du Parlement.
Ah, ça, le Parlement, ça, c'est quand même assez extraordinaire. Ça, je prends juste le temps de l'expliquer.
Allez-y.
C'est-à-dire qu'à ce moment-là, on a fini par obtenir vaguement le gouvernement responsable. Et une des premières décisions, c'est qu'à ce moment-là, il y a eu des raisons de brûler, si vous voulez, après, par l'armée.
Oui.
La question qu'il y a, c'est qu'il y avait un paquet de gens qui n'étaient pas nécessairement des patriotes vraiment reconnus. Donc, on a décidé de les compenser. C'est arrivé aussi au Haut-Canada. Et à ce moment-là, là, on les avait compensés, c'est-à-dire c'est qu'on avait voté. Et lorsqu'on a décidé de pouvoir de compenser pour les gens du Québec, si vous voulez, là, il y a eu une émeute fabriquée à Montréal par tous les gens qui étaient contre ça, et ils ont brûlé le Parlement.
Ah oui, oui.
Alors là, c'est vraiment... problématique. Pas parler d'une relation là, qui est vraiment juste... C'est un racisme absolument intéressant.
J'ai appris que nous sommes les seuls maintenant à célébrer encore la reine Victoria. voyez-vous, même vous, ça vous fait encore rire.
Non, on était touchés.
Mais oui. Et alors, l'inauguration de son pont, page 202, oh ça, j'aime tellement ça. D'ailleurs, je l'aime tellement que c'est l'extrait, parce qu'en seconde partie, j'aime bien lire un extrait. Oui. Mais la Minerve, quoi, ça c'était un journal de l'époque, c'est ça. Et là, on lisait dans la Minerve, il serait d'une extrême inconvenance de donner la prédominance aux couleurs françaises dans une circonstance comme celle-ci, où l'on veut faire honneur à l'héritier présomptif de la couronne d'Angleterre dont nous sommes les sujets.
Mais c'est quelque chose qui est assez curieux, c'est-à-dire c'est comme, même s'ils étaient, d'une certaine façon, monarchistes, ils utilisaient le drapeau français révolutionnaire.
Oui.
Puis la question qu'il y a, c'est que les Français sont revenus à un moment donné. Il y a eu une visite de la Capricieuse.
Oui.
Puis là, ben, il y avait eu des drapeaux français. Fait que là, ça avait énervé
tout le monde. Beaucoup.
Mais énervé juste à côté la partie anglaise de la ville.
Jean-Claude Germain, je voudrais signaler, redonner le nom de ce livre touffu, mais tellement bien écrit, tellement dense. Encore une fois, avec plein d'anecdotes absolument savoureuses. Nous étions le Nouveau Monde. C'est le tome 3, hein, le feuilleton du ciel rouge et de l'enfer. Vous savez que nous avons d'autres livres qui ont été enregistrés de vous, pour nos amis qui ont des difficultés perceptuelles, de la vision, Le cœur rouge de la bohème, La femme nue habillée la nuit.
Oui.
Nous avons Emma Albany, ça c'était de la télévision, ça, Emma Albany, ça je pense, oui c'est ça, c'est un, je pense que c'est quelque chose qui vient plus de la télé. Rue Fabre, Centre de l'univers, j'aime beaucoup. Tiens d'ailleurs, ça aussi c'est un personnage.
C'est la vie que j'ai vécue à Montréal.
C'est ça, exactement, oui, là on
parle
plus d'histoire.
Mais pour l'histoire, j'invente pas des personnages, c'est qu'il faut prendre conscience que nous sommes très intéressants.
Ah oui, et vous l'êtes, oui.
Non mais je dis nous. C'est-à-dire, c'est que ces gens-là sont hauts en couleur, puis c'est pas une histoire plate.
Merci beaucoup, Jean-Claude Germain, d'être venu, non pas une, mais deux fois, à l'émission des Livres pleins les oreilles. On va continuer de vous lire et de vous écouter avec plaisir.
Merci beaucoup.
Plein les oreilles, la suite. Alors voilà, merci beaucoup au généreux Jean-Claude Germain d'être revenu pour la deuxième fois. Tout de suite, eh bien, puisque nous sommes dans cette ambiance-là de ce livre, nous étions le Nouveau Monde, un extrait, comme je le fais à chaque semaine. J'ai choisi la veille ou l'avant-veille de l'inauguration du pont Victoria par le prince de Galles. Nous sommes en 1860. Il est question de la Minerve qui était un journal, un quotidien à l'époque à Montréal. Alors c'est en page 202 de ce livre de Jean-Claude Germain. En prévision de l'inauguration du pont Victoria par le prince de Galles en 1860, la Minerve a estimé qu'elle devait mettre ses lecteurs en garde contre la tentation d'affirmer trop ouvertement leur origine. Il serait d'une extrême inconvenance de donner la prédominance aux couleurs françaises dans une circonstance comme celle-ci, où l'on veut faire honneur à l'héritier présomptif de la couronne d'Angleterre dont nous sommes les sujets, écrivait-on à l'époque. « Faisons vertu de la retenue », rappelle matoisement le journal. Et là, on les cite. Les couleurs françaises ne sont pas proscrites, seulement il faut les déployer avec réserve. Les Canadiens français savent qu'il y va de l'honneur de la nationalité canadienne-française comme de son intérêt. Ils connaissent leurs devoirs comme leurs droits et ils le prouveront en se rendant en masse vendredi sur la route que doit parcourir Son Altesse Royale pour se rendre à sa résidence. Cette première visite royale instaure une tradition montréalaise qui connaîtra son apogée avec l'Exposition universelle en 1967 et les Jeux olympiques de 1976, celle de faire la porte plus grande que la maison, écrit Jean-Claude Germain. Rien n'est trop beau pour fêter la monarchie ou trop coûteux pour rehausser l'image de la ville. Petit clin d'œil. Tout d'abord, un peu de ménage rue Notre-Dame, avec la démolition de l'ancienne prison pour dégager les abords de la place Jacques-Cartier, puis la création d'une nouvelle attraction, un palais de cristal, rue Peel, au-dessus de la rue Sainte-Catherine, pour abriter une exposition universelle, et finalement, la construction d'une salle expressément pour y tenir le grand bal. Attention. La prose officielle nous apprend qu'il s'agit d'un bâtiment de bois de 300 pieds de diamètre, de forme circulaire, entouré comme d'une ceinture par une large terrasse flanquée de tourelles crénelées, érigée au milieu d'un parc artificiel d'une vaste étendue parsemée de fontaines également artificielles. 2 douzaines de portes donneront accès à une salle éclairée par 2000 quinquets, où on n'attend pas moins de 6000 personnes. Et là, je viens d'apprendre que, vous savez, quand on dit les quinquets pour les yeux, ça doit faire référence à cette forme de bougie ou de choses comme ça qu'on utilisait à l'époque pour faire la lumière. Voilà. Parce que chez nous, ça se dit, un enfant, ouf tes quinquets. Et si ça ne se dit pas les quinquets, eh bien, chez nous, ça se disait. Alors, le 24 août, Montréal est prête à recevoir son prince, mais le beau temps laisse à désirer. La vingtaine de bateaux à vapeur, pavoisés de 1000 couleurs, qui se sont lancés au-devant du Québec, pour escorter son entrée dans le port, le Québec, c'est le nom du bateau, doivent rebrousser chemin sous un déluge de pluie. Le prince de Galles et son état-major ajournent leur débarquement. Le lendemain matin, le soleil s'est remplumé, les cloches sonnent, le maire postillonne, les conseillers plastronnent, le clergé rayonne, les magistrats ronronnent, les militaires ordonnent en claquant des talons et les Indiens, en grand apparat, impressionnent par leur mutisme légendaire. Bref, la fête coloniale fonctionne. Le soir venu, on se serait cru en plein jour, nous n'exagérons nullement, en affirmant que plus de 80 000 personnes circulaient dans nos rues pour jouir du magnifique coup d'œil, épilogue un reporter qui s'avoue ébahi par la métamorphose de la ville. Des milliers de becs de gaz, de lampes, de lanternes chinoises répandaient leur brillante lumière sur l'immense réunion de curieux animés de la joie la plus vive. De toute évidence, Montréal n'est plus un gros village, c'est une grande ville, une métropole. Ah, souvenons-nous, hein, lorsque nous avons illuminé en juin dernier notre pont Jacques-Cartier pour célébrer le 375e. Hein? Ben finalement, il n'y a rien de changé. J'adore découvrir des beaux livres, des bons livres. Et là, je sens que ce sera le cas avec mon amie Isabelle Falardeau. Bonjour Isabelle.
Bonjour Clotilde.
Quand on vous a remis ce livre-là entre les mains pour vous donner la mission de le lire à haute voix pour nos auditeurs, vous ne pensiez sûrement pas tomber sur un aussi bel ouvrage.
Non, et en fait, on ne me l'a pas remis dans les mains, mais j'ai le bonheur de travailler à la vérification où on peut découvrir encore plus de livres que quand on est lecteur. Alors, je ne peux pas prendre le crédit pour avoir
vous l'avez
lu
pas
ce
lu
livre.
Celui-ci.
Non, c'est ça, je l'ai écouté en accéléré. Mais ça m'a vraiment donné le goût de le lire et donc j'ai complété la lecture chez moi.
D'accord.
Et puis, comme j'ai fait surtout de la vérif dernièrement à cause de ma voix, que vous entendez, peut-être vous l'entendez à son meilleur, là, mais dans les dernières semaines, elle n'était pas très sexy.
Vous voyez quand même, hein, mes amis, comment on pense à vous. Et voyez-vous cette jeune femme qui avait la voix ruinée par une bronchite, eh bien, elle venait quand même pour faire de la vérification.
Eh ouais.
Ben oui, c'est ça la gang des bénévoles ici, j'ai vu ses voix. Présentez-nous ce livre, titre et auteur.
Alors, c'est « La tristesse des éléphants » par Jody Picoult, J-O-D-I pour le prénom, et P-I-C-O-U-L-T pour le nom de famille.
Comme et que ça sonne français. Picou, hein? Non, mais c'est vrai.
C'est vrai que ça fait français, mais c'est une Américaine.
Une Américaine,
et okay. C'est traduit du roman « Leaving Time » en anglais. J'aime qu'ils ont... On n'a pas insisté sur le fait de traduire littéralement, mais on a trouvé un titre qui décrit vraiment bien.
Absolument, hein, c'est ce qui se passe. Oui. Parce qu'il est question d'éléphants.
Beaucoup.
Beaucoup, mais il n'est pas question que de ça.
Non, c'est ça. En fait... L'histoire des éléphants, on apprend plein de choses sur les éléphants, sur le deuil des mamans éléphants, sur l'amour des mamans éléphants pour leurs bébés éléphants. Et tout ça est en parallèle avec la quête d'une jeune fille de 13 ans pour sa mère qui a disparu. Et on ne peut pas s'empêcher, là, c'est vraiment évident, mais en même temps, c'est quand même subtil. Donc, évident, mais subtil en même temps,
de faire
un parallèle entre l'amour maternel de sa mère pour elle et éléphantes dont il est question. Je ne sais pas si on dit éléphantes pour...
Oui, ça se dit éléphantes, voilà. Oui.
Alors, et c'est ça, le livre, c'est un peu une alternance entre le passé où on apprend tout ce que la mère... Parce que pourquoi on parle des éléphants, c'est que la mère de Jenna, qui est le personnage principal du roman... Sa mère était une spécialiste des éléphants, donc elle avait un doctorat en quelque chose de très scientifique, okay, là, en lien avec les éléphants, je pense en neurosciences animales. Et elle avait créé un refuge avec son mari, un refuge pour éléphants aux États-Unis. Et elle a disparu un jour de ce refuge. Il y a eu un incident au refuge, quelqu'un est mort et sa mère a disparu. Et elle avait 3 ans, la petite Jenna. Et à 13 ans, elle est en fait assez grande pour essayer de partir à sa recherche. Elle habite avec sa grand-mère depuis tout ce temps-là. Et là, elle garde les enfants, elle se ramasse un peu d'argent, elle pense qu'elle va pouvoir se payer un détective privé. Évidemment, ça coûte un peu plus cher. Elle finit par se payer une voyante à 10 $. Et on apprend que cette voyante-là est une voyante déchue, mais qui a déjà été très, très, très reconnue. Bref, elle s'allie à cette voyante-là et à un détective qui est aussi un détective qui était l'enquêteur sur la disparition de sa mère, mais qui a aussi disparu de la carte et qui est devenu un détective privé toujours sous et qui veut oublier son passé.
Oui.
Mais c'est vraiment, et c'est ça, et en parallèle, ben, on a des souvenirs de sa mère et on apprend plein de choses sur les éléphants. Et puis c'est ça, c'est vraiment la quête de cette jeune fille-là, mais il y a une révélation à la fin du roman que moi, j'ai pas vu venir du tout, et qui se fait tellement bien, qui nous transporte complètement.
Oui, parce qu'on va la retrouver, la maman. Là.
Ben, on va savoir qu'est-ce qui lui est arrivé.
Qu'est-ce qui lui est arrivé.
Mais je ne veux pas évidemment vous
dire...
Mais non.
Mathieu est en colère de l'autre côté. Il fait chut, chut.
Mais on va savoir ce qui est arrivé. Je ne vous dis pas si elle est vivante ou non, mais voilà.
Et alors, cet amour pour les éléphants, hein, parce qu'il y a plein de gens qui finalement méconnaissent, hein, mais je ne sais pas si vous êtes intéressé un petit peu plus à cet animal-là.
Clairement, parce que oui, c'est ça.
C'est phénoménal.
On ne peut pas terminer ce livre-là sans avoir envie d'en apprendre plus sur les éléphants.
C'est ça.
Mais on en apprend déjà beaucoup. Et puis, c'est sûr qu'on va aller vérifier est-ce que tout ce qui est écrit est vrai, est-ce que ça a vraiment des bases scientifiques. On nous parle d'un refuge. Le refuge est inspiré d'un vrai refuge pour éléphants au Tennessee. Donc, évidemment, moi, je me sens pressée d'aller voir s'il existait pour vrai.
Ouais.
Et puis, vraiment, il y a des refuges pour éléphants aux États-Unis.
Et alors, on apprend aussi beaucoup sur le plan scientifique. Et même sur le plan, tout ce qui est un petit peu, pas fiction, mais tout ce qui est un petit peu surnaturel, je crois. Hein?
Il y a beaucoup de surnaturel dans ce livre-là.
Aussi, hein?
Clairement, oui.
OK.
Et il y a beaucoup de science, mais ça devient pas... comment je pourrais dire? C'est pas abrutissant, là, disons. On ne se sent pas dépassé jamais. C'est toujours... c'est à la limite entre la philosophie et la science. Parce que sa mère veut prouver que les éléphants ressentent le deuil, ressentent la perte de leur bébé.
Ouais.
Et puis, c'était ça, la recherche de sa mère.
Mais ça, d'ailleurs, on le sait grâce au cimetière, parce que je veux dire, ce sont de rares animaux ou mammifères qui ont un cimetière.
Oui, c'est ça. On en apprend là-dessus aussi.
Aussi beaucoup,
dans ce roman-là. Oui. Et puis, je ne sais pas si vous voulez que je vous lise une toute petite citation qui va nous donner une idée d'un peu comment... Quel genre de parole il y a dans ce... On ne parle pas des éléphants dans celle que j'ai choisie. Alors, c'est Jenna qui parle. « Je murmure, grand-mère, je crois qu'elle est morte. » Je ne m'étais pas rendu compte jusqu'ici que les mots ont des bords tranchants, qu'ils peuvent vous couper la langue. Je ne crois pas que je pourrais prononcer une autre phrase après celle-là, si je voulais.
Et
évidemment, c'est un moment où elle finit par se dire peut-être que j'accepte qu'elle est morte, mais ça ne veut pas dire que c'est ce qui arrive, mais Elle passe par des hauts et des bas, Jenna. Mais c'est vraiment ce genre de réflexion-là. Puis c'est bien, elle a bien réussi à se mettre dans la peau d'une jeune fille de 13 ans.
De 13 ans.
L'auteur,
Il y a une, justement, de cet auteur, Jodi Picoult, ou Picoult, si vous voulez, il y a une note en fin de volume que vous avez dû lire, vous, en page 444, où elle dit « Je me suis dit, maintes fois en écrivant ce livre » que les éléphants pourraient bien être plus évolués que les humains. Quand j'étudiais les façons dont ils font leur deuil, le savoir-faire des mères avec leurs petits et leurs souvenirs. Si vous retenez quelque chose de ce roman, j'espère que ce sera une conscience plus affirmée de l'intelligence cognitive et émotionnelle de ces magnifiques animaux et la certitude que c'est à nous qu'il revient de les protéger.
Exactement, c'est... oui.
Ben écoutez, j'ai très hâte, encore un autre bouquin, non mais écoutez, là, vraiment, ma table de chevet
mais
ne
celui-là,
vous remercie
vraiment,
pas.
Mais celui-là, vraiment, il se lit tout seul.
Alors oui, puis vous me direz, je pourrais aussi me le télécharger, mais c'est pas pareil de lire.
Ben vous savez quoi, moi c'est ce que j'ai fait, je l'ai lu en accéléré ici, mais seulement la moitié, et j'avais envie de connaître la suite, et puis je l'ai téléchargé sur ma liseuse.
D'accord, en passant donc par le site numérique, par le
de,
site
la bibliothèque,
De la bibliothèque, oui. Absolument.
Exactement.
Merci beaucoup, Isabelle Falardeau. Je suis contente que vous nous ayez parlé de ce livre-là. Il sera question, d'ailleurs, d'animaux avec un livre de ce philosophe, Monsieur Lenoir, qui a écrit un espèce de plaidoyer aussi. C'est une lettre écrite à nos amis les animaux. Et c'est Gérald Cousineau qui est en train de le lire pour nous et qui va venir nous présenter ça d'ici, je pense, 2 semaines ou peut-être même la semaine prochaine. Alors, voyez-vous, moi, c'est vrai que je suis complètement fanatique. Je rate pas tous les films. Pendant les fêtes, là, il y a quelques semaines, je me suis tapé tous les films avec des animaux et je braille.
Donc, il n'y a rien pour nous faire pleurer comme des animaux.
Mais c'est terrible. Voilà. Moi, vous mettez...
Dans l'aventure, c'est l'aventure. Bon, petite parenthèse. Oui. Mais... Les gens se font torturer allègrement, puis c'est comment quand le chien, c'est quand le chien se fait tuer qu'on pleure.
Exactement. Ben moi ça c'est mon genre. Merci beaucoup Isabelle.
Avec plaisir.
Alors à une prochaine fois. Merci. Salut. Alors, on poursuit. Je suis un petit peu en retard, je vous l'avouerai, mais je ne voulais pas passer sous silence la disparition de Jean d'Ormesson à mon tour, pour différentes raisons. Peut-être parce que c'est quelqu'un que j'ai eu l'occasion d'interviewer quand je faisais mes débuts à la radio. Donc, je parle de ça il y a plus de 30 ans. Et ça a été une des premières personnes que j'ai eues en interview avec les genoux qui cognaient, parce que c'était quand même quelqu'un de très impressionnant.
Déjà à l'époque.
Monsieur d'Ormesson, déjà, donc il avait quoi à l'époque? Il n'avait qu'une 60aine d'années, physiquement, quoi, avec des yeux d'un bleu comme j'ai rarement vu, sauf peut-être en Acadie. Mais c'est vrai, bon, c'était vraiment quelqu'un, et alors impressionnant par sa grande culture, par sa faconde, par sa façon de dire les choses avec une élégance, Alors bon, j'avais été très impressionnée, puis j'ai lu beaucoup de ces livres-là, de ces livres signés de Jean d'Ormesson. Et j'en ai lu un aussi à haute voix, d'ailleurs, ici, il y a peut-être 2 ans de ça, qui était « Un jour, je m'en irai sans en avoir tout dit ». Et je conserve de ce livre-là un souvenir absolument impérissable où on apprend beaucoup. Bon, c'est quelqu'un à qui on a reproché d'être beaucoup au jeu, puis de nous parler beaucoup de lui. Oui, mais qu'est-ce que vous voulez, cet homme-là? Moi, je trouve qu'il avait des choses à dire. J'aime mieux quelqu'un qui parle beaucoup quand il a des choses à dire que quelqu'un qui parle beaucoup quand il n'a rien à dire. Bon, et cet homme-là est un être profondément inspirant. Vous savez que c'est quelqu'un qui s'est demandé très longtemps ce qu'il allait faire dans la vie.
Ah ouais.
Ça peut sembler incroyable. Et finalement, donc, il s'en est allé, sans en avoir tout dit, pour paraphraser ce livre dont je vous parlais et que j'ai lu avec un réel plaisir. Pour en savoir un petit peu plus, peut-être, moi j'aime bien savoir qui étaient les parents des individus, peut-être pour plus comprendre qu'elle est dans l'espèce d'entonnoir que forme un couple comme ça. C'est le fruit de ce couple-là. Ben, le père de Jean d'Ormesson était un diplomate qui s'appelait André d'Ormesson. D'ailleurs, il va même devenir ambassadeur à un moment donné. Et du coup, ben, la mère et le fiston, et les deux fils, parce qu'il avait un frère un petit peu plus vieux que lui, suivent ce père à peu près partout sur la planète, notamment en Roumanie, notamment au Brésil,
Donc, ils ont fait un peu le tour du monde. Et puis, c'est quelqu'un, d'Ormesson, au départ, comme il ne savait pas quoi faire, il a pris des cours en philosophie. Tout le monde, il ne voulait pas faire Sciences Po. Tout le monde, parce que c'était un garçon brillant, alors tout le monde voulait qu'il fasse Sciences Po, tout le monde voulait qu'il fasse de la politique. Et lui, il a fait plutôt Hippocagne, qui est une haute école en France, pour les gens qui ont les moyens et qui ont toute leur tête, c'est le moins qu'on puisse dire. Et il a étudié en philosophie, il est même devenu enseignant en philosophie, mais il s'est rapidement, très rapidement ennuyé et il s'est mis à écrire ses premiers livre dans les années 70, donc assez tard. Et ça n'a vraiment pas été le succès qu'il voulait. Il a tellement connu, d'ailleurs, aucun succès avec ces bouquins-là. Ça passait tellement pas qu'il a même été obligé de vendre le château de sa mère, parce que sa mère était issue d'une famille assez riche. Ah, ouais. Et ils avaient un château familial à Saint-Fargeau. Alors, ils ont vendu, il a été obligé de vendre le château pour vivre. Et voyez-vous, je vous disais, dans les années 70, non, c'est plutôt que ça. Ça, c'est entre les années 50 et 60. Et c'est dans les années 70 qu'il signe La gloire de l'Empire. C'est un espèce de pastiche de livre d'histoire. Et c'est ce livre-là qui va lui valoir le grand prix du roman de l'Académie française et le bonheur de joindre les rangs de l'Académie française lui-même à l'âge seulement de 48 ans.
Ah, oui.
Vous savez que d'Ormesson, entre autres, c'est celui qui a aidé Marguerite Yourcenar à forcer les portes de l'Académie française. À ce moment-là, sous la coupole, on s'offusque. On ne veut pas de cette femme, dont on dit d'ailleurs, est-ce bien une femme? Parce que bon, comme c'était une lesbienne notoire, tout le monde disait, mais de toute manière, est-ce que c'est une femme? On ne le sait même pas. Bref, personne ne voulait entendre parler de Yourcenar, et c'est lui qui a insisté, Jean d'Ormesson, et finalement, elle a fait son entrée sous la coupole dans les années 1980, en 80 d'ailleurs. Alors, c'est quelqu'un qu'on a aussi, lorsqu'il est mort, on a dit que c'était quelqu'un qui était un macho, infini, etc. J'en sais rien. Et je me dis, oui, c'est important parce qu'on vit à une époque où, en ce moment, un charmeur, ça c'est certain, ça je peux en témoigner, charmeur partout, par le regard, par la culture, mais aussi un charmeur, moi je trouve, parce que c'était un manipulateur de langage absolument redoutable. D'ailleurs, on me disait de lui en France qu'il était un séducteur intellectuel, classique, rebelle et farceur. Alors, en version adaptée, ici, via le SQLA ou via Inca, le CAEB, vous pouvez trouver les titres suivants. Guide des égarés, Comme un chant d'espérance, Un jour je m'en irai sans en avoir tout dit, Saveur du temps, ça c'est un livre qu'il a dédié à sa fille qui avait ouvert une maison d'édition, Héloïse. Et d'ailleurs, c'est dans cette maison d'édition qu'était paru Saveur du temps. C'est une chose étrange à la fin que le monde, une fête en larmes, c'était bien la création du monde et la douane de mer. Et plus récemment, tout récemment, a été lu ici, chez Vues et Voix. Je dirais malgré tout que cette vie fut belle. Ça, c'est son dernier livre, c'est celui qu'il a rédigé en 2016 pour se défendre dans un procès qu'il s'entend à lui-même. L'auteur fait défiler au galop un passé évanoui. Il va de l'âge d'or d'un classicisme qui règne sur l'Europe à l'effondrement de ce monde d'hier si cher à Stefan Zweig. De Colbert, Fouquet, Bossuet ou Racine à François Mitterrand, Raymond Aron, Paul Morand et Aragon. Mais les charmes d'une vie et les tourbillons de l'histoire ne suffisent pas à l'accuser. Vous n'imaginiez tout de même pas que j'allais me contenter de vous débiter des souvenirs d'enfance et de jeunesse. Je ne me mets pas très haut, mais je ne suis pas tombé assez bas pour vous livrer ce qu'on appelle des mémoires, écrivait Jean d'Ormesson. Les aventures d'un écrivain qui a aimé le bonheur et le plaisir en dépit de tant de malheurs cèdent peu à peu la place à un regard plus grave sur le drame qui ne cesse jamais de se jouer entre le temps et l'éternité et qui nous emportera. Il me reste une petite minute juste pour vous lire peut-être les toutes premières pages parce qu'on fait connaissance avec les personnages, c'est-à-dire moi et moi, puisque c'est lui qui se fait. Alors, il y a le premier moi qui est en italique. D'ailleurs, j'imagine qu'au niveau de la lecture, ça n'a pas dû être facile parce qu'il a sûrement fallu préciser moi en italique. Magistrat intègre, sévère, bienveillant, ironique, dans les milieux intellectuels et à la mode, souvent surnommé « surmoi », avec une ombre de dérision en raison de ses hautes fonctions et de l'idée qu'il s'en fait. Et puis ensuite, il y a « moi », qui n'est pas écrit en italique, et là, il écrit dans « me son, bah moi, c'est moi ». Plaisir, travail, ambition, foutaise et compagnie. Et puis, entre autres, ceux qu'on croise, politiques, artistes, écrivains, journalistes, femmes du monde, putains, fonctionnaires, nationaux ou internationaux, chauffeurs, médecins, banquiers, éditeurs, marins, mannequins, facteurs, soldats, chômeurs, hôtesses de l'air, escrocs, génies, etc. Le cumul est autorisé. Voilà de quoi est fait ce dernier livre, ce dernier petit bonheur de lecture signé Jean d'Ormesson. J'ai plus de temps pour un... Oh, je peux-tu un petit extrait ? Alors, moi, italique, demande « Profession ». Moi, sans italique, réponds « Comme vous y allez, cette question-là, je me la suis posée toute ma vie. » Alors là, il répond « Suffisance, peut-être. Orgueil, arrogance. Je crois pouvoir dire « Écrivain ». Je suis un écrivain français au temps où les écrivains français, hier encore triomphants à travers le vaste monde, sont en voie, sinon de disparition, il y en a encore beaucoup et peut-être de plus en plus, du moins de déclin. Il compte moins aujourd'hui qu'il y a un siècle ou deux, je suis le dernier des Mohicans, un chef-d'œuvre en péril, une fin de dynastie, une espèce de dinosaure menacé d'extinction. Il me faudrait des pages et des pages pour expliquer ma réponse. » Voilà, Jean d'Ormesson. Je dirais malgré tout que cette vie fut belle, maintenant disponible en version audio via le SQLA. Je ne peux pas vous cacher que c'est une amie, je ne peux pas vous cacher qu'elle était déjà venue à l'émission pour nous présenter Fragile. Comment c'était le premier titre ? Forte et fragile, si mes souvenirs sont bons. Et ça a été un petit peu le livre des fêtes. Je sais que ça s'est vendu comme des petits pains parce que c'est quelqu'un que vous adorez, que nous adorons. Il s'agit de France Castel qui a sorti cette bio qu'elle n'a pas écrite. Il s'agit d'un entretien qu'elle a donné à Jean-Yves Girard et cela donne ici et maintenant. Et là, tout ce qu'elle n'avait pas osé dire dans son premier livre, tout est dit, tout est écrit. Elle assume tout, d'ailleurs, nous dit-on en quatrième de couverture. Elle ose dire ce qu'elle pense et ose penser ce qu'elle dit. Et tant pis si ça dérange ou même choque. Parce qu'elle en a parlé avec sa franchise habituelle, on croit la connaître. Mais France n'avait pas tout dit de sa vie et de son histoire. Ici et maintenant, c'est le témoignage d'une femme d'aujourd'hui qui a beaucoup appris d'hier en menant tambour battant une vie riche, folle et fascinante. Elle écrit au tout début... Pourquoi ce livre ? Bonne question, répond-elle. Par où commencer ? Par l'envie de faire un grand ménage dans tous les sens du mot et de remettre les pendules à l'heure, pour moi, pour mes enfants et pour le public, qui suit ma carrière multiforme et ma vie tumultueuse depuis déjà un demi-siècle. Pour ne pas oublier et comprendre toujours un peu plus qui je suis, où je vais et comment je me suis rendue si loin, ici, maintenant. Pour voir jusqu'où je peux assumer tout mon vécu, toutes mes douleurs et mes zones d'ombre, tout ce que je n'avais pas encore dit. Alors voilà, donc France Castel qui sera dans ce studio la semaine prochaine. Quelques titres en rafale maintenant. Lui aussi, je l'ai accueilli deux fois plutôt qu'une. Eh bien, voici le troisième tome de cette trilogie, celle de David Goudreau, « Abattre la bête ». À la fin de ce récit, je vais me tuer et puis mourir. C'est ainsi, toute bonne chose a une fin. Mais moi aussi, écrit David Goudreau. On se souvient des retentissants succès de La Bête à sa mère et La Bête et sa cage. C'était d'ailleurs pour ces deux livres-là qu'il était venu en studio. David Goudreau qui conclut cette trilogie avec Abattre la bête. Des explosions d'amour et de violence pour une finale apocalyptique digne de ce nom. Un petit extrait. La psychiatrie, c'est comme la prison, en plus désinfectée. On joue sur les termes pour mettre la main sur des subventions spécifiques, mais au fond, c'est pareil. Le trou s'appelle « pièce consacrée à l'isolement ». La cellule se nomme « notre chambre ». Les menottes s'appellent « médication » et la détention s'appelle « thérapie ». Mais faut pas se tromper, c'est la même violence psychologique, la pire, l'enfermement de l'homme par l'homme. Êtes-vous un fan de Philippe Kerr, celui à qui l'on doit tous ces livres qui nous resituent justement en Allemagne dans les années 40, exactement comme nous en parlions au tout début de l'émission avec Louise Boulanger. On est ailleurs là avec Pénitence de Philippe Kerr. Nous sommes avec Jill Martins, qui est un agent du FBI qui lutte contre le terrorisme depuis Houston au Texas. Il est le témoin quotidien d'actes de violence perpétrés par des extrémistes de toutes sortes. Autrefois, cet homme croyant, eh bien, la réalité cruelle de son travail le porte à remettre en question l'existence de Dieu, ce qui provoque d'ailleurs de fortes tensions avec sa femme. Et lorsque plusieurs personnes athées, dont un professeur de biologie, un obstétricien et un journaliste, sont victimes d'attentats aussi étranges qu'inexpliqués, Martins lance une enquête, malgré le scepticisme de ses supérieurs. Ses recherches l'amènent à l'église d'Israël où une jeune membre de sa congrégation, terrifiée, est convaincue que les victimes ont été tuées par leurs prières.
Oh.
Ça s'appelle « Pénitence » et c'est de Philippe Kerr, K-E-2-R. Et puis allez, tiens, un petit livre pour les enfants, « La doudou qui ne sentait pas bon », c'est de notre Claudia La Rochelle préférée. Elle qui est notre porte-parole ici chez Vues et Voix. La doudou puante et pourtant irremplaçable de Jeanne doit passer à la laveuse. Mmh. Alors en furie contre ce rituel qu'elle trouve inutile, la doudou quitte les lieux et s'aventure dans la forêt espérant trouver la paix. Et pendant ce temps, on imagine la petite Jeanne est inconsolable jusqu'à ce que, comme dans toute bonne histoire, son gris-gris précieux et débordant d'ennui monte dans le premier autobus et décide de faire face aux événements. Voilà, c'est un premier album jeunesse pour cette journaliste et écrivaine et notre porte-parole bien connue, Claudia La Rochelle, la doudou qui ne sentait pas bon. Et c'est l'heure de nous quitter déjà. Moi, c'est fou, à chaque fois, j'en reviens pas. Il me semble que je viens juste de m'asseoir dans ce fauteuil. Merci à mes invités, Louise Boulanger, Jean-Claude Germain, revenu pour la seconde fois, Isabelle Falardeau, dont je ne compte plus les participations, et c'est toujours apprécié. Merci à Mathieu Tessier en régie. C'était Clotilde Seil, qui vous souhaite une bonne semaine de bonne lecture et qui vous dit à la semaine prochaine. Salut!